Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à toutes et à tous, et très heureuse de vous retrouver. Alors, en janvier dernier, sortait le numéro 3 d'une nouvelle revue, L'Iceberg, qui avait pour titre « Comment l'écologie résiste à la guerre ». C'était prémonitoire. En redonnant la parole à l'équipe rédactionnelle du journal aujourd'hui, nous répondons à deux objectifs. D'abord, soutenir une presse qui refuse de céder aux exigences de la concentration économique, qui tente de lancer un nouveau titre, qui se protège des ingérences et qui tente de maintenir cette expression libre. Nous reviendrons sur tous ces sujets jeudi 19 mars à 18h au Gazette Café avec notre débat « Menace sur la presse ». Faut-il s'inquiéter ? Et j'espère que vous serez là très nombreux. C'est l'occasion pour nous de se pencher sur cette guerre qui déchire le Moyen-Orient. L'eau, les terres, la mer, tout ce qui fait le bien commun est prétexte à attaque. Quelques États tentent actuellement d'introduire dans les crimes contre l'humanité l'écocide, comme crime international pouvant tomber sous la juridiction de la Cour pénale internationale, la CPI. Alors Blanche Constant est journaliste indépendante multimédia et elle revient avec nous sur cette action puisqu'elle a travaillé sur le sujet justement pour l'Iceberg. Blanche, bonjour.
Bonjour.
Alors, donc, vous avez lancé ce travail de réflexion sur l'écocide parmi de très, très nombreux sujets. Qu'est-ce que c'est que cet écocide ?
Alors, déjà, écocide, on peut se demander donc, d'où vient le terme. Donc, il vient de deux termes grecs anciens, oikos, qui signifie maison, et le suffixe latin, plutôt, donc du grec et du latin, et le suffixe latin cid, qui signifie tuer, abattre. Donc littéralement, en fait, l'écocide, ça signifie abattre sa maison. Et c'est un terme qu'on utilise pour désigner tout acte causant des dommages graves, durables et étendus à un ou plusieurs écosystèmes et qui sont provoqués par l'homme.
Alors c'est un concept, donc, en fait, qui est assez ancien déjà.
Excusez-moi ?
C'est un concept qui est assez ancien ?
Alors, c'est bien de revenir un peu sur l'origine du concept, parce que même là, la définition que j'en ai donnée reste quand même assez floue. Et donc, pour vraiment comprendre ce que ça recouvre, on peut remonter dans le temps. Donc, c'est une notion qui a été utilisée pour la première fois au début des années 70, donc par des universitaires américains et des militants américains, donc dans le contexte de la guerre du Vietnam. Et donc, c'était pour dénoncer les effets écologiques de cette guerre-là, au moment où les États-Unis déversaient des milliers de litres de napalm et d'agents orange, avec la volonté vraiment de détruire la nature pour vaincre l'ennemi.
Et dont on mesure encore aujourd'hui, d'ailleurs, les effets, puisqu'on peut dire que même, par exemple, nous, sur Montpellier, on a un professeur qui s'appelle donc le professeur Sultan, qui continue à travailler sur les ravages du napalm, et c'est effectivement écocidaire, quoi. C'est-à-dire que ça a tué non seulement la végétation, mais ça continue encore à tuer des hommes et des femmes.
Oui. Oui, c'est ça, exactement. C'est qu'encore aujourd'hui, on voit les dégâts sanitaires que ça peut avoir, les cancers, malformations, handicaps lourds qui continuent d'y avoir dans la population vietnamienne. Et c'est pour ça aussi que c'est très, très important de se saisir du terme d'écocide, notamment en temps de guerre. Parce que souvent, ça fait très longtemps que l'homme détruit l'environnement pendant les guerres. Mais pendant longtemps, c'est aussi resté un impensé. Parce que quand on pense guerre, on pense urgence humaine. Et c'est normal, hein, c'est ce qui nous vient comme réflexe. Mais en fait, en détruisant l'environnement pendant les guerres, on s'expose à des risques et continue d'avoir des effets en fait pendant très longtemps, des dizaines voire des centaines d'années, et ce qui fait que finalement une guerre peut continuer de tuer même longtemps après s'être terminée.
Donc on peut dire que en dépit de ces élans initiaux, l'écocide n'a pas été intégré au statut de Rome, c'est-à-dire le texte qui est le texte fondateur de la Cour pénale internationale, de la CPI, et qui est donc en charge de juger les crimes les plus graves qui menacent la paix mondiale. Alors en fait, pourtant, on est maintenant une trentaine, quarantaine d'années plus tard, et on peut dire que sur le plan scientifique, on a l'ensemble des données. Donc, pourquoi ce retard? Pourquoi est-ce que c'est si lent à entrer en vigueur?
Alors déjà, je pense que ce qui est important de dire, c'est que même si c'est lent à entrer en vigueur, il y a quand même un grand mouvement international, que ce soit porté par des militants, par des juristes ou même des pays qui essaient de faire de l'écocide un crime international. Donc il y a quand même un mouvement de fond qui fait que ça est quelque chose qui progresse. Et je pense quand même que c'est un peu... Parce que là, du coup, je suis revenue un peu sur l'historique de la notion, mais c'est important de dire aussi que cette notion-là, elle s'est transformée au cours du temps et qu'elle déjà, elle se cantonne plus du tout seulement à la guerre. Depuis les années 2010 aussi, les gens qui militent pour la reconnaissance de l'écocide militent pour que ce soit toutes les atteintes graves à l'environnement qui soient considérées comme écocidaires, mais ça peut avoir lieu en temps de guerre comme en temps de paix.
Alors donnez-nous un exemple qui est revendiqué, par exemple.
Et bien, par exemple, on va dire que donc au moment de la Cour pénale internationale, donc il y a eu la volonté peut-être d'intégrer l'écocide, ça ne s'est pas fait. Et après, les débats autour de l'écocide se sont un peu taris. Mais ce qui a relancé les débats autour de l'écocide, c'est en 2010 l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique, donc qui a provoqué la mort de 11 personnes et aussi une marée noire d'envergure. Et du coup, à ce moment-là, il y a une avocate britannique qui s'appelle Polly Higgins qui a publié un livre qui s'appelle donc « Éradiquer l'écocide » et dont l'objectif, son objectif à elle, c'était de montrer que la destruction accélérée de la planète était rendue possible par des lois jugées trop complaisantes envers les entreprises et les gouvernements. Et que du coup, il fallait reconnaître cet écocide-là. Mais pour pouvoir poursuivre personnellement à la fois les responsables politiques et les responsables des multinationales ou des trafics qui pouvaient détruire l'environnement.
Donc, voilà. Alors à partir de là, effectivement, on passe d'un problème de crime contre l'humanité, d'une certaine manière, à quelque chose qui est un crime contre l'humanité quand même, enfin contre l'environnement, mais n'importe quand. Et on comprend alors pourquoi la Cour pénale, finalement, freine un peu, parce que elle a déjà eu énormément de... Enfin, ça a été long, la reconnaissance des crimes nazis, puisqu'elle est née un peu pour ça. Et peut-être que c'était un peu trop lui demander dans un premier temps.
Je sais pas exactement, parce que les temporalités étant un peu compliquées, dans les années 90-2000, quand au moment de la création de la CPI, en tout cas, on pensait encore l'écocide, surtout dans un contexte de guerre. Donc, je pense qu'il y a ça, il n'y a pas que ça. Il y a effectivement des difficultés aussi. En fait, il y a plusieurs difficultés qui à la reconnaissance de l'écocide. Il y a des difficultés juridiques, parce que c'est assez... comme sujet, parce que quand il y a un crime environnemental, on a du mal à mesurer les effets sur le long terme que ce crime peut avoir. On a du mal à définir des seuils pour évaluer un dommage qui serait grave, étendu et durable sur un écosystème. Et aussi, la CPI, elle juge que des personnes physiques, donc par exemple des responsables politiques, et c'est parfois difficile aussi de les identifier. Et à côté, il y a aussi des freins qui sont économiques. Parce que même si bah, aujourd'hui, c'est un peu... En tout cas, c'est ce que relaie une coalition qui lutte pour la reconnaissance de l'écocide au niveau international. Stop écocide international, c'est qu'aujourd'hui, il est assez difficile de s'opposer publiquement à la reconnaissance de l'écocide. C'est dur de dire « Ah ben moi, je suis contre la reconnaissance des crimes environnementaux ». Mais en fait, par derrière, il y a aussi beaucoup d'intérêts économiques qui se jouent, où les États et les grandes entreprises ont parfois pas forcément intérêt à ce que ce soit reconnu.
Donc des effets de lobbying, en fait.
Oui, il y a des formes de lobbying, je pense.
Bon, écoutez, Blanche, merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc, on y voit déjà un petit peu plus clair, hein, et on voit que effectivement, reconnaître l'écocide reviendra à redéfinir les responsabilités envers le vivant. Les conflits, les dégradations de l'environnement ont toujours été étroitement liés aux guerres, bien sûr. Le droit international humanitaire interdit d'utiliser l'environnement naturel comme arme, d'ailleurs. C'est dans les règles de la guerre, puisque malheureusement il y a un code de la guerre. Autrement dit, il interdit de porter délibérément atteinte à l'environnement naturel, notamment de détruire des ressources naturelles et de recourir à des techniques de modification de l'environnement, d'utiliser des herbicides par exemple, qui bouleversent l'équilibre écologique d'une région. Merci.
Merci.
La guerre ne tue pas seulement subitement, mais à petit feu. À cause des pollutions, des ruptures d'approvisionnement, elle crée aussi, qui sont aussi créées par les destructions. Nous assistons en ce moment à une guerre moderne où plus de civils que de militaires sont tués et où l'IA transforme en cible une école de fillettes suite à un mauvais renseignement. Une forme extrême de guerre hybride, politico-industrielle et climatique. Et l'eau y est devenue une cible. Alors bien sûr, ce n'est pas nouveau. En Irak, par exemple, quand il y avait la guerre, on construisait des barrages pour empêcher le fleuve d'arroser les terres jadis fertiles. En Afghanistan, les talibans, dès les premières guerres, ont détruit les réseaux souterrains de conduite, les KRES. Donc dans ces réseaux, l'eau circulait à l'abri de l'évaporation et circulait très bien, mais les hommes s'y cachaient. Donc on les a détruits. Aujourd'hui, ce sont les usines de dessalement que l'on cible. Elles ont besoin de beaucoup d'énergie, donc on les construit souvent à côté des raffineries. Et dimanche 8 mars, le Bahreïn accusait Téhéran d'avoir ciblé une de ses usines de dessalement, sachant que plus tôt, Téhéran accusait les États-Unis du même crime, alors qu'étaient touchées deux autres centrales, l'une aux Émirats arabes, l'autre au Koweït, étaient ainsi ciblées des infrastructures vitales pour des millions d'habitants. Depuis deux décennies, les conflits visent de plus en plus les infrastructures dites vitales, entre raffineries, usines chimiques, dépôts d'engrais, centrales électriques, ports et sites dits Céveso. De l'Ukraine à Gaza, du Yémen à l'Iran aujourd'hui, chaque frappe provoque un double crime. Elle tue d'abord par l'explosion, puis plus silencieusement par la disparition, la dispersion de substances toxiques dans l'air, l'eau et les sols. Les combats en mer entraînent déjà des marées noires. Les frappes sur les installations pétrolières réveillent le souvenir de la guerre au Koweït en 1991, avec des puits de pétrole en feu qui, pendant 30 jours après même la mise à feu, les dégâts ne sont pas encore complètement réparés et on est pourtant 30 ans après. Et voilà que cela recommence. Alors nous allons écouter sur France 24 Audrey Racine qui, dans Élémentaire, l'émission qu'elle tient régulièrement, nous décrit ce qui est en train de se passer sur le détroit d'Ormuz.
De cette ONG britannique qui recensait les atteintes à l'environnement dans le golfe Persique depuis le début de l'offensive américaine. Elle a compté 5 tankers touchés par des explosions ces derniers jours. Des navires qui transportent d'importantes quantités de pétrole et peuvent donc être à l'origine de marées noires. Ces tankers auraient tous été visés par l'Iran qui a fait des infrastructures pétrolières une cible prioritaire dans la région pour forcer les pays à essayer de précipiter la fin de l'offensive américaine pour effrayer en tout cas les riverains de cette offensive. Ça ne vous aura pas échappé, le golfe Persique est une mer semi-fermée par le détroit d'Ormuz et donc le renouvellement de l'eau y est moins important, il y a moins de brassage, donc un risque plus important en cas de pollution, mais aussi une fragilité plus grande face au changement climatique. Au-delà du détroit d'Ormuz, au large d'Oman, c'est la mer d'Arabie et c'est là que se situe la plus importante zone morte de la planète, de la taille de l'Écosse tout de même. C'est une zone morte, c'est une zone où l'eau n'est plus assez oxygénée pour permettre la vie de la faune ou de la flore. Et cette zone, elle s'étend pendant qu'on se parle en ce moment. Et donc, elle menace le golfe Persique. À l'intérieur du golfe Persique, il y a sur les deux rives des mangroves. Là, vous voyez celle de Dakhira au Qatar, mais il y en a aussi sur les rives iraniennes. Ce sont des milieux précieux pour la faune qui en dépend. Ils sont aussi précieux pour limiter le retrait des côtes face à la montée des eaux. Et enfin, ce sont des pièges à CO2 très efficaces et donc utiles contre le réchauffement climatique. Problème, lorsqu'une mangrove est touchée par une marée noire, il est évidemment très difficile de nettoyer ce milieu complexe qui est fait d'un enchevêtrement de racines plongées dans l'eau. Vous comprenez maintenant mieux pourquoi cet écosystème est fragile.
Et lorsqu'on met le feu à des champs de pétrole, ce sont des millions de tonnes de dioxyde de carbone qui sont libérées dans l'atmosphère. Et bien sûr, ça ne fait pas du bien au réchauffement climatique. Le bétail, les autres animaux meurent victimes du pétrole brut qui se répand dans l'environnement. Un tel incendie peut contribuer aussi au dérèglement climatique, comme je le disais, en rejetant dans l'atmosphère quantité de gaz à effet de serre. Un phénomène très particulier s'est présenté en début de semaine à Téhéran, quelque chose que l'on n'avait encore jamais vu, alors que les populations locales sont un peu habituées au feu. À la suite des explosions, les habitants ont rapidement signalé des difficultés à respirer et des retombées de dépôts sur des kilomètres de distance. Renouant avec un grave problème qui avait touché le nord et l'est de la France à la fin des années 70. Alors, peut-être vous ne vous en souvenez-vous plus, mais c'était quelque chose de très grave. Et il y avait eu un grand cri d'alarme qui avait été lancé par les écologistes, dans la mesure où on voyait mourir les forêts de pins, on voyait les pierres de nos cathédrales s'oxyder et se décomposer à cause des acides. Et puis, on a réussi à s'en débarrasser. Et à l'époque, chez nous, bien sûr, ce n'était pas les raffineries qui en étaient à l'origine, mais c'était notre essence qui contenait trop de NOx. Les gaz polluants qui s'échappent des incendies, effectivement, contiennent aujourd'hui du dioxyde de soufre, du SO2, et des oxydes d'azote, du NOx. Et ces gaz, eh bien, se transforment dans l'atmosphère en acide, et ensuite, ils sont lessivés par la pluie et retombent sur Terre. Écoutons la description quasi apocalyptique que nous fait le Parisien de cet événement. Vous allez trouver que la voix est un peu particulière. Eh bien, c'est quelque chose de très nouveau. En fait, les chatbots, les intelligences artificielles, se mettent aujourd'hui à décrire les papiers des journalistes qui ont fait un papier écrit. Et donc, c'est une voix quasi mécanique qui aujourd'hui nous relie ce papier.
Après des frappes israéliennes visant plusieurs installations pétrolières autour de la capitale iranienne, des incendies ont brûlé pendant des heures. Depuis plusieurs jours, une épaisse fumée noire flotte au-dessus de Téhéran. Libérant dans l'air d'énormes quantités de fumée et de particules toxiques. Dans cette ville de près de 10 millions d'habitants, le quotidien est brutalement devenu étouffant, cette fois littéralement, après une semaine de conflit qui avait déjà assombri l'atmosphère. l'armée israélienne a déclaré avoir ciblé plusieurs complexes de stockage de carburant appartenant aux gardiens de la Révolution, affirmant qu'ils servaient à distribuer du carburant à plusieurs entités militaires. Mais les conséquences se font surtout sentir pour la population civile. Des colonnes de fumée noire se sont élevées au-dessus de la ville, obscurcissant le ciel et couvrant parfois le soleil. Avec les précipitations, les habitants ont vu apparaître un phénomène inhabituel, une pluie sombre chargée de résidus pétroliers. Kianosh, un ingénieur de 44 ans vivant à Téhéran, raconte dans le magazine Time avoir été stupéfait en regardant tomber les gouttes sur la ville. « La pluie est noire, je n'arrive pas à y croire, je vois de la pluie noire », confie-t-il. Il y en a même à Tajrish, qui est pourtant très loin des réservoirs de pétrole. Entre l'odeur persistante du pétrole brûlé, le ciel assombri et la pluie sombre qui recouvre les balcons et les rues, la capitale iranienne vit au rythme d'un paysage devenu presque irréel. C'est comme si tout était recouvert d'une couche noire, résume Léla. On a l'impression que la ville entière est sale et malade. Certains habitants décrivent une atmosphère suffocante. Léla, une enseignante de 27 ans, parle d'un air devenu presque impossible à respirer, c'est comme si un monstre noir avait avalé le ciel au-dessus de Téhéran. On dirait que toutes les voitures et la chaussée ont été recouvertes de peinture noire. Elle décrit aussi des effets physiques immédiats après une courte exposition. Aujourd'hui, j'ai été dans la voiture pendant 15 minutes seulement, à respirer cet air. Je ne sais même pas ce que c'est, et maintenant j'ai mal à la tête. La peau de mon visage, surtout mes lèvres, est douloureuse et irritée. Ça brûle et on dirait qu'il y a du gaz lacrymogène dilué dans l'air. Face aux risques sanitaires, le Croissant Rouge iranien a mis en garde les habitants de Téhéran et des régions voisines. L'organisation a averti que les pluies tombées après les frappes pourraient être extrêmement dangereuses et acides, avec un risque de brûlure chimique de la peau et de graves lésions pulmonaires. À plusieurs dizaines de kilomètres de la capitale, les traces de cette pollution sont visibles.
En raison de sa topographie et de son climat, Téhéran est une ville déjà très exposée à la pollution atmosphérique et aux situations de stagnation de l'air. Quand le vent est faible, les panaches restent près du sol. Cette pollution ne va pas faire du surplace, elle va s'étaler et au gré des courants se déplacer vers l'est et toucher bien d'autres pays. Vous entendez aujourd'hui parler, bien sûr au moment où l'ensemble des médias vous parle du nombre de morts et de la dureté des conflits, on ne parle jamais ou rarement des atteintes à l'environnement. Et ces atteintes à l'environnement, il faut quand même en prendre conscience parce que c'est aussi un outil de guerre. C'est-à-dire que quand on frappe une usine de dessalement, on peut priver d'eau potable ces pays qui n'ont absolument pas d'eau à leur disposition et qui ne vivent à 99% qu'à partir des usines de dessalement. Donc, raffinerie, usine de dessalement, tout cela, bien sûr, va durer au-delà du conflit et de ce que les politiques, finalement, sont en train de négocier, puisque souvent, ne sont négociées que des terres. Alors, ce que je vais vous dire maintenant, vous n'allez pas l'aimer. Et vous n'allez pas non plus m'aimer de vous dire ce que je vais vous dire. Mais le pétrole va augmenter. Eh bien, tant mieux. Parce que finalement, le pétrole, c'est devenu une arme de guerre. Et c'est devenu la principale arme de guerre. Et quand on cherche aujourd'hui à sortir des énergies fossiles, que ce soit le charbon ou que ce soit le pétrole, eh bien, voilà, aujourd'hui, dans cette guerre, il va falloir profiter de l'augmentation du prix du pétrole pour essayer de mettre en place la transition écologique. Quelques jours, ce sont les municipales. Peu importe pour qui, mais allez voter. Ne laissez surtout pas périr ce droit à décider de notre sort. Je vous donne également rendez-vous, comme je vous le disais au début de cette émission, jeudi 19 mars à 18h au Gazette Café pour un débat. À l'heure des menaces sur la presse, faut-il s'inquiéter? Nous savons que les journalistes de l'environnement font partie de ceux que l'on menace beaucoup jusqu'à aller à les supprimer. Ce sera donc avec Dominique Anthony, qui est président du Club de la Presse et qui fera un état des droits et des devoirs de ce métier de journaliste, mais en même temps qui montrera à quel point l'économie est en train de concentrer la presse et d'en finalement limiter la liberté. Henri Frasque présentera le dernier rapport de l'OFALP et du détournement du droit. Et enfin, des journalistes reviendront sur les ingérences et les fake news. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le cadre des municipales et bientôt dans celui des présidentielles, des pays étrangers créent des ingérences en copiant de nos journaux, Libération, Le Monde, Le Parisien, etc. Ils vous présentent exactement sur vos portables et dans vos réseaux sociaux le modèle exact auquel vous êtes habitué. Et au milieu des articles, eh bien, ils mettent un article totalement faux, une fake news totale, que vous lisez parce que vous êtes habitué. Finalement, le reste ne vous choque pas. Voilà. Alors, eh bien, sur ces bonnes paroles, surtout dimanche, n'oubliez pas d'aller voter. Bon week-end et à la semaine prochaine.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.